Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche, le podcast qui vous propose de découvrir les histoires passionnantes des acteurs du manga en France. Je m'appelle Charles et toutes les deux semaines, je vous en partage une nouvelle. Alors, pour ne rien rater, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, pensez à vous abonner. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur Spotify et nous y répondrons dans le prochain épisode. Pour la troisième fois, Pain sur la planche a le plaisir de voir son podcast sponsorisé et derrière ce soutien se cache Frakiabara, une plateforme de recrutement spécialisée dans un secteur qui parle, celui de la pop culture asiatique. Que ce soit pour le manga, le webtoon ou encore le jeu vidéo, Frakiabara fait le lien entre les passionnés et les entreprises du secteur. D'ailleurs, on y retrouve déjà les offres de Crunchyroll, Abbeystyle ou encore Naver, la maison mère de webtoon. Alors que vous soyez illustrateur, juriste, community manager ou à l'inverse une entreprise du secteur à la recherche de sa future pépite, n'hésitez pas à visiter le site de Frakiabara. Le lien est dans la description. Dans l'épisode du jour, nous recevons Geronimo Sejudo, auteur de Reaper, mangaka reconnu par les plus grands, Kazue Kato, Akira Toriyama, mais surtout un homme porté par une passion dévorante, celle du manga. Pas de surprise pour ceux qui le connaissent déjà, mais dans cet épisode, on aborde forcément sa deuxième place au 100e concours Tezuka, concours iconique de manga normalement ouvert uniquement aux Japonais. Mais aussi à l'intégralité de son parcours, allant de ses années de, disons-le, galère, à son édition au sein de Ankama pour le manga Reaper. Géro, c'est probablement l'invité qui m'a été le plus demandé dans ce podcast, alors j'espère que l'épisode vous plaira. On a légèrement changé la formule en deuxième partie d'épisode, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse en compagnie de Geronimo Sejudo. Géro, on se retrouve ici pour le 30e épisode de Pain sur la planche. C'est mon premier épisode nocturne aussi, parce que tu sors d'une journée de dédicace intense.
C'est vrai.
À Valenciennes. À Valenciennes. Là, on est dans la chambre qui te loge.
Ouais. Dans la chambre d'hôtel.
C'est ça.
Alors, donc, ça fait quoi de venir dans la chambre d'hôtel d'un auteur?
Ouais, je me sens privilégié. Tu vois, comme si ça m'écrivait un peu un futur. En mode, peut-être que plus tard, je serai auteur. Non, c'est faux.
Ouais, peut-être.
Mais on est surtout ici pour parler de toi.
Ouais.
Donc, t'es auteur. T'es l'auteur de Reaper, notamment.
Ouais.
Et pour toi, le dessin, ça commence à 8 ans.
Ouais.
Quand tu lis le tome 35 de Dragon Ball.
C'est ça. Dans la cour d'école. En fait, j'ai deux amis qui arrivent le matin et il y en a un qui ramène ses dessins de Dragon Ball. Il avait dessiné des Dragon Ball et en fait, des personnages de Dragon Ball. Et la manière dont il les avait dessinés, on aurait dit qu'il avait décalqué, mais pas du tout. Et c'était trop beau, de manière un peu... Vraiment, j'étais arrogant, je pense, à 8 ans. Et je me suis dit, mais je peux faire pareil. Enfin, j'ai envie de faire pareil. Et le même jour, il y a un autre collègue qui m'offre le tome 35 de Dragon Ball. Donc, les vieilles versions couleur pastel, là, couverture dégueulasse. Hein. Vraiment, okay. Je suis désolé pour les fans de ces couves, mais elles sont vraiment pas belles.
Celles où encore de gauche à droite
Ouais.
Okay.
Où vraiment, c'est du montage, où t'as un perso en haut derrière le numéro et tout. Mais vraiment, juste avant ça, moi, je lisais Boule et Bill, Astérix... Titeuf.
Ouais.
Et en fait, là, je découvre Dragon Ball. Et je connaissais pas du tout les mangas. T'as 8 ans. Et tu vois 200 pages, noir et blanc. Alors, tu te poses pas ces questions quand t'as 8 ans, forcément. Mm-hmm. Mais des personnages hauts en couleur, qui se mettent sur la gueule, qui vraiment se fracassent. Alors que, Titeuf, il fait juste des conneries à l'école.
Oh, c'est pauvre.
Ouais, c'est ça. Boule et Bill, ils font des bêtises, quoi. Ils font des petites bêtises. Là, t'as Gohan. Tome 35, c'est
ouais,
Gohan
c'est...
contre Cell. Ça m'a marqué à vie, quoi. C'est incroyable. Et en même temps, t'as le dessin animé à la télé. Mmh. Et c'était justement le passage Gohan contre Cell en animé sur TMC ou je sais pas quoi.
Et tu découvres tout ça d'un coup?
Tout d'un coup.
Ok.
Tout d'un coup. Alors je sais plus exactement parce que vraiment de mes 1 à 8 ans, j'ai plus beaucoup de souvenirs.
Ce qui est normal.
Voilà. Mais ouais. Y a
ouais, donc
tout
on est
d'un coup.
Même pas aux années 2000, on est genre vers 99, un truc comme ça. Et tu découvres
oui.
Dragon Ball?
Oui, 99. Okay. Je venais juste de déménager dans cette école. Je me fais des potes. Ils m'offrent un Dragon Ball, des dessins, tout okay. ça. Et en fait, je me dis que je peux faire... Ouais, que j'ai envie de faire pareil, en fait. J'ai envie de dessiner. Et du coup, en rentrant chez moi, c'est dessin. Je refais des Gohan. J'ai fait une erreur, par contre. C'est que j'ai colorié dans mon tome Dragon Ball.
C'est vrai?
J'ai colorié, j'ai dessiné, j'ai fait des petits gribouillis et tout. Parce que tu connais pas trop. Tu sais, le truc, il est en noir et blanc et tout. Mais ça m'a quand même marqué, quoi.
Ah ouais?
C'était ouf. Et vraiment des feuilles entières de Dragon Ball. J'écrivais des histoires à l'infini, en rapport avec Dragon Ball et tout. Fin...
Et donc là, tu commences le dessin vraiment basé sur du Dragon Ball, il y a
c'est
que ça. Ok.
Ouais, c'est ça.
Si je me trompe pas, à 14 ans, tu rencontres Francis.
Francis Sapin, ouais.
De apprendre à dessiner.
Oui, de la chaîne YouTube Apprendre à dessiner, ouais.
Et tu deviens son élève.
J'ai, ouais, pendant une semaine.
Ah, très rapide.
Ah ouais, c'était un stage de une semaine en MJC avec mon meilleur ami. Et on était combien ? On était une dizaine d'élèves, je crois. Et c'était vraiment un petit truc en MJC, apprends à faire de la BD. Parce que bah, je pense que j'avais, depuis Dragon Ball, là, depuis, j'avais envie de faire de la BD, mais sans le vouloir. En fait, je l'avais pas conscientisé.
Okay.
Je m'étais jamais dit, je veux faire de la BD.
Mais tu passais tout ton temps à faire ça.
Ouais, je faisais que des BD. Et c'est à cet âge, c'était 14-15 ans. À cet âge-là, je rencontre Francis, qui donne les cours de BD. À 15 ans, peut-être c'était question d'après.
Tu vas à Vezon-la-Romaine.
Je rencontre Renaud Le Maire. Et là, c'est... En fait, j'étais à Auchan et je vois dans les rayons, je vois un Dreamland. Il n'y avait qu'un seul tome du tome 1. Et je vois Renaud Le Maire. Je me dis, c'est
pas... Ça fait très français, ça.
C'est pas japonais. Ouais, tu sais, chez moi, j'ai les Akira Toriyama.
Ouais.
Je commençais à acheter mes premiers mangas. Donc, j'avais des Naruto. J'avais des Oshinenji, qui est un manga qui m'a énormément marqué, de Ryu Fujisaki. Et je vois Renaud Le Maire. Je l'ouvre. Et à la fin du tome 1, il y a une interview. Il y a sa tête, le mec qui vient de Montpellier. Je dis, mais c'est pas possible.
En plus, toi, t'es du Sud, donc t'es à côté.
Et je me dis, mais du coup, c'est possible d'être français et de faire du manga. Et alors là, là, c'est finito.
Dans ta tête, c'est...
C'est finito, je veux faire du manga.
Ah ouais?
C'est acté.
Mais tu t'es vraiment dit, à ce moment-là, ouais. T'as tout conscientisé d'un coup?
Pas vraiment, parce que je pense que je conscientise rien du tout. Mais je me suis dit, ok, c'est bon.
Je vais faire ça.
Je vais faire du manga. C'est possible en France d'être français et faire du manga. Et du coup, ouais, je vais à Vezon-la-Romaine, je le rencontre, je lui pose des questions, je lui montre mes dessins. Le seul conseil qu'il me donne, c'est travaille l'anatomie. C'est tout. Je l'ai vu plusieurs fois. Le seul conseil qu'il donnait, c'était travaille l'anatomie. Et en fait, petit à petit, il venait dans le coin par là où j'habitais. Ouais. Je suis allé le voir 2, 3, 4 fois. Et à chaque fois, bah, tu sais, au bout d'un moment, il te reconnaît. Et puis, au bout d'un moment, mon dessin, il s'améliore. Et du coup, il reconnaît mon dessin, et puis il te serre la main après, et puis il devient poteau, et puis bon, bah, maintenant c'est le poteau, quoi.
Ouais. Ouais.
Et non, c'était très cool. Vezon-la-Romaine, ouais, c'était vraiment le truc, et en plus, il y a une anecdote que tu as peut-être.
J'ai. Mais que je laisse raconter.
Où vraiment, 15 ans plus tard, je sors Reaper, et en fait, je vais dédicacer le tome 1 de Reaper, donc mon bouquin, au même endroit que là où j'ai rencontré Renaud, quoi.
Et avec Renaud.
Et avec Renaud à côté. Par contre, c'était la pire dédicace de
l'univers. Ouais, ce que j'ai cru comprendre, très mal accueilli.
Très mal accueilli, vraiment éclaté au sol. On était dans une cour de récré désaffectée.
Sous des tonnelles, non ?
Ouais, sous une tonnelle, mais il y avait personne, il y avait juste 3 touristes allemands en vélo qui sont passés, il y a eu 5 personnes sur les 2 jours. T'avais les auteurs BD, ils étaient dans le village BD. C'était bien, ils avaient la buvette, ils avaient des fauteuils et tout. Non, des éclatés, mais on a mangé des très bonnes crêpes.
Ah.
Et ça, franchement, en fait, on est le dimanche, c'était ouvert, il y avait une crêperie, on s'est posé, on voyait de la crêperie, on voyait là où on dédicaçait. Et en fait, il y avait personne. Bah, du coup, on est resté manger des crêpes, en fait.
Ouais, super.
C'était trop bien.
Fait ta dédicace.
C'était trop bien. On était 10 autour de la table à manger des crêpes. Il y avait des lecteurs, il y avait des auteurs. Il y avait Sanchiro.
C'est ça. Et là, tu te dis qu'il y a des gens qui viennent vous voir à la Japan et qui font 1 heure, 2 heures de queue.
C'est ça.
Alors que finalement, alors, tu viens à Vezon-la-Romaine et tu passes direct.
C'était même plus Vezon-la-Romaine. C'est pour ça que c'était différent. C'était au Ventoux. Enfin, c'était vraiment perdu. Bref,
ok, je vois.
Ils auraient dû venir là. Ils auraient pu papoter.
Et du coup, là, donc, quand t'as 15 ans pour reprendre, tu dois rentrer en lycée pour faire un bac L. Là, tu fais que travailler ton dessin?
Oui, 15 ans, je suis en troisième, en plus, parce que je redouble ma troisième.
Okay.
Je suis éclaté à l'école. Vraiment, je suis nul. L'école, ça m'intéresse pas, de toute façon. Donc,
tu dessines en cours, évidemment.
Je dessine en cours, je dessine mes profs, je dessine les gens, je dessine tout le temps. Vraiment, les cours, il y avait l'art plastique qui m'intéressait un peu, mais c'était vraiment l'art plastique conventionnel. Donc il y a certains artistes à suivre et tout. C'est non, vraiment l'école, c'est un truc qui m'intéresse vraiment pas du tout.
Okay.
Il y a quelques trucs, quelques soubresauts parfois qui m'ont intéressé, mais vraiment moi c'était juste sortir avec les potes, dessiner, jouer aux jeux vidéo et voilà, c'est tout.
Donc vraiment tu fais que ça du lycée.
C'est ça.
Tu finis avec ton quand même le petit bac L qui
j'ai quand même eu le bac grâce à la philo.
Ah ouais, ouais. T'es un peu tu
pas
disais
tout...
ouais.
Non, pas du tout. En fait, j'ai cité Schopenhauer et voilà,
et ça suffit.
Tu cites un mec et c'est bon. Mais c'est vrai que je le dis tout le temps que j'ai eu 15 en philo, mais c'est parce que c'est la seule bonne note que j'ai eue. La deuxième, c'était en art plastique. Parce que,
ok, bah, t'avais pris l'option ou...
Option art plastique au lycée, okay. Ouais. Et après, toutes les autres, tu vois, j'étais en L, littérature, nulle. Toutes les autres.
Et à ce moment-là, tu fais encore des conventions et tout, tu cherches à aller voir des auteurs?
Toujours Renaud.
Que Renaud?
Toujours, vraiment, le stalker.
Ouais, vraiment.
Le stalker. En fait, parce qu'il, comme il est du sud,
ouais.
Il venait beaucoup, il était venu à Carpentras, qui est, c'était là où il y avait mon lycée.
Okay.
Et en fait, avec mon meilleur ami, on sortait du lycée. Et on est allé le voir. Et en fait, il avait pas eu grand monde. Donc, on s'était posé, on avait bu un verre avec. Okay. On avait pu papoter. Et, franchement, un auteur qui fait du manga, qui te dit, bah, vas-y, posez-vous, on papote. C'est trop bien.
Ça valait de l'or pour toi.
Et je pense que ça m'a matrixé parce que maintenant j'ai, je serai jamais Renaud, hein, mais j'ai un peu la même, enfin, j'essaie un peu d'être,
De donner de toi,
C'est ça, d'être un peu comme ça, quoi.
D'accueillir.
Genre, je fais pas de dédicace avec de tickets. Ça, c'est mort. Tant qu'il y a du monde, je dédicace. C'est, ouais, je sais pas.
Ok. Donc t'as vraiment ce truc-là un peu de perpétuer un rite.
C'est ça.
Okay.
C'est la volonté du dé.
La volonté du dé.
Du dé de Dreamland.
Ah ok, carrément. Il n'y a pas de dé dans Reaper.
Non.
Ah, dommage.
Non, ça peut s'appeler Dripper.
Dripper.
Dripper. C'est bien drippé.
Et après, t'enchaînes avec un BTS, si je dis pas de bêtises.
Ouais, est-ce que j'enchaîne direct? Ouais, j'enchaîne à Montpellier.
Ok.
Avec une mise à niveau.
Ok.
On est impliqué dans une école qui s'appelle Studio M. Éclaté au sol.
Ça te plaît pas?
La pire école du monde.
Ah ouais?
Catastrophique l'école, les profs ils s'en foutent, la direction elle s'en fout. C'est, en plus c'est une école privée donc payante. C'est horrible. C'est, vraiment ça leur passe au-dessus. Le référentiel il est pas suivi, le BTS ils s'en foutent. Et en plus du coup, bah, en fait comme tout le monde s'en fout, tu perds en motivation. Et en fait la mise à niveau j'étais à fond. Et après, je sais pas pourquoi, en fait, je crois que j'ai été embrigadé, je sais pas. Et j'ai fait ces deux années de BTS, mais la motivation, elle fait que descendre en flèche. Le BTS, je l'ai pas eu. Et de toute façon, j'avais pas envie de l'avoir,
je m'en foutais
totalement.
Tu faisais que du dessin.
Ouais, que du dessin.
Et tu faisais déjà des planches de BD?
Des planches, ouais.
Ouais.
Des planches, ça, j'en ai toujours fait.
Okay.
Depuis que j'ai découvert Dragon Ball. Par exemple, quand j'ai découvert Naruto, donc mon premier tome de Naruto, c'est le tome 16. Naruto versus Gaara.
Ouais.
Incroyable. J'ai redessiné tout le tome 16.
OK.
Entièrement, j'ai tout perdu. Par contre, j'ai perdu toutes les pages.
C'est vrai.
Mais j'ai redessiné tout, mais à la place des persos de Naruto, je dessinais mes persos.
OK. T'avais déjà une petite histoire avec des OC et tout?
J'avais pas d'histoire, mais c'était des OC, ouais,
okay.
Et du coup, je les mettais à la place. C'était rigolo, ça me permettait d'apprendre un petit peu le découpage, la narration, l'anatomie un peu, etc. Et puis ouais, il y avait Dreamland aussi en même temps, qui a un peu forgé mon style au début. Puis j'ai découvert One Piece.
Et One Piece, grosse inspi.
Vraiment, en fait, t'avais tous ces mangas conventionnels, un petit peu, avec des persos qui, sans être vulgaires, qui se ressemblent niveau proportion.
Mm-hmm.
Et en fait, il y a One Piece qui arrive, et t'as des... Le premier tome que j'ai... C'est jamais les premiers tomes. Hein.
Ça, c'est la classique.
Le premier tome de One Piece que j'ai, c'est le tome 25. Et dans le tome 25, t'as Bartholomew Kuma. T'as
okay.
Doflamingo, t'as Barbe Blanche, c'est des persos, ils ont des proportions immenses. Tu te dis, putain, mais le mec, il a un torse comme as, il a des
jambes
comme
toutes
ça.
Des petites, bien sûr.
Et tu te dis, mais il faut que je fasse ça.
Genre, et ça rend bien.
Dans Reaper, Bortos,
ouais.
C'est clairement un petit clin d'œil à Kuma. Bon, ça aurait pas collé avec mon style, mais ce corps disproportionné énorme, c'est un clin d'œil, quoi.
Fait un peu buffle.
C'est
tu
ça,
vois, ouais.
C'est ça.
Ok, hyper stylé. Et après, donc, t'arrêtes ton BTS. Tu dois avoir à peu près une vingtaine d'années à ce moment-là, je pense.
Oui.
Et là, jusque 25 ans, c'est la galère.
Ouais.
Ouais.
C'est les petits boulots. Hein.
C'est les petits boulots.
C'est les petits boulots. J'ai enchaîné tous les petits boulots possibles, inimaginables, en intérim, etc. Et après, j'ai eu la chance qu'on me paye le BAFA.
Ok.
Donc, j'ai passé mon BAFA.
C'est quoi? C'est la mairie ou quelque chose comme ça qui payait
Alors, c'est la mairie d'une autre ville dans laquelle je vivais pas.
Ok.
Parce qu'en fait, je donnais des cours de dessin. Je sais même plus comment ça s'est goupillé. Je me rappelle de rien. Mais j'ai vraiment pas de mémoire. Faut vraiment que je mange du poisson. Je sais plus. En fait, je donnais des cours de dessin.
Okay.
Et comme ça les intéressait, et que moi, m'occuper des jeunes, bah, je trouvais ça cool, parce qu'ils étaient intéressés par le dessin et tout. Ils m'ont dit, bah, vas-y, on te paye le BAFA, on a besoin d'animateurs et tout. Mmh. Donc, let's go. Et sur Facebook, je mets que j'ai eu le BAFA, et il y a Mr. Box, qui me contacte et qui me dit, bah, je suis directeur de colo. Donc, il fait des colonies de vacances.
Mr. Box, qu'on a vu tout à l'heure?
Qu'on a vu tout à l'heure.
Ok, hyper drôle.
Il était directeur de colo avec sa compagne et tout. Enfin, voilà, c'était, il y avait plein de monde qui maintenant sont des potes. Et en fait, il me contacte et il me dit, je fais des colonies de vacances axées manga. Vraiment que manga, tu vois. Enfin, manga, BD, tout ça pour dessiner. Et je dis, bah, chaud, vas-y, go. Et du coup, je suis parti. J'ai fait ça 4 ans, je crois.
Ok.
Que les étés.
Bien sûr.
Une à deux sessions par été sur des 12-15 jours. Incroyable.
Ouais.
Vraiment, tu rencontres des jeunes qui sont incroyables, qui dessinent de fou. Ils ont 12 ans. Ils te mettent des cartons en dessin.
Ah ouais.
C'est des trucs de zinzin. Il y a un jeune qui s'appelait Clément, qui dessine incroyablement bien. Un jeune qui s'appelle Raphaël aussi, qui, j'espère qu'ils regarderont. Hein. C'est des personnages, quoi. Vraiment,
ils
étaient ouf. Et toute l'ambiance... Le côté, tu fais des animations manga, on avait fait un grand jeu, Les Gardiens de la Galaxie. C'est incroyable, tu te prêtes au jeu. Je t'ai déguisé en Rocket Raccoon, quoi.
Ok, forcément.
Rocket Raccoon.
Forcément.
Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, tu donnes un peu des petits conseils. Là, à ce moment-là, j'étais sur l'île Berry, en plus.
Et ça fait un peu écho aussi à ce que la vision que tu avais grâce à Renaud de un peu de, je sais pas comment, de transmission.
Ouais, de transmettre, de donner, bah, de donner de soi, enfin,
ouais.
de kiffer, en fait, mm-hmm. de prendre du plaisir dans le dessin, tout simplement. Que ça soit pas trop carré. De toute façon, je suis pas un mec carré. Vraiment,
c'est la Wallégen.
J'étais en tong. Durant toutes les colos, j'étais
Bien sûr.
Tong. Le sud. Renault. Bon, ça doit être ça. Mais c'est,
ouais,
vraiment,
je pense
ça
que c'est
doit être
une forte inspiration.
J'ai gardé mes tongs pendant 25 ans. Non, c'est un peu beaucoup, 25 ans. Mais pendant.
Ça veut dire que tes pieds, ils ont pas beaucoup bougé, quoi.
Ouais.
Donc, okay.
Vraiment 10 ans, j'avais les mêmes tongs. C'était terrible. Mais, non, c'était cool. Vraiment,
okay.
C'était trop trop cool.
Et du coup, pour revenir, donc t'enchaînais un peu les petits boulots à droite à gauche.
Ouais.
Et en même temps, si je me trompe pas, tu postais tes dessins sur Facebook.
Ouais.
Ok.
C'était l'époque Facebook. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Gary Vanaka et Johan Vornier, qui fait Silence maintenant
Bien
chez
sûr.
Kana. Et en fait, ça a été mes deux premiers potes.
D'internet. Du dessin.
Ouais, c'est ça. Et en fait, Gary m'avait dit, bah vas-y, poste. Parce qu'il avait déjà une bonne commu sur Facebook, Gary.
Okay.
Il m'a dit, mais vas-y, poste plein de trucs. Et puis je te partage, je sais plus comment ça fonctionne sur Facebook, il y a plus personne de toute façon. Et Johan aussi, du coup, il m'avait partagé, on se partageait comme ça. J'ai rencontré Bishop comme
okay.
ça. J'ai rencontré Rours.
Ok, j'ai pas, mais ok.
Rours qui bosse maintenant avec le label 619.
D'accord, bien sûr.
Qui a fait Orage chez Webtoon.
D'accord.
Véga okay. Dupuis. Et ouais, et puis je rencontre un peu tous les. Alors c'est marrant, je rencontre tout un groupe de dessinateurs, d'amis dessinateurs, dans lequel il y a ZD maintenant.
Ok.
On s'appelait les FDP.
Super.
Voilà. Pour les frais de port.
Ah d'accord,
bien
ouais
sûr.
C'est ça, exactement.
Non. Mais ouais, et du coup en fait on fait du fanzine en même temps, mais peut-être je vais trop loin dans le storytelling.
Non, pas forcément, non. tu peux y aller.
Ben là en fait on fait du fanzine. Avec Rours qui chapeaute tout ça. Le fanzine s'appelle le Wanted Magazine.
Ok.
Ça dure 4 numéros, je crois. Moi, j'ai pas été dans les 4. Je crois que j'en ai fait 2.
Et c'est quoi? Tu proposais un chapitre? Tu proposais...
J'ai fait des illus, j'ai fait des chapitres. J'ai fait une de mes premières histoires qui s'appelle... le personnage s'appelait Gary.
Ok.
Plus. Gary quelque chose. Mais c'était vraiment... La perspective, elle était.
Il y avait pas.
Ah,
il y avait pas la
horrible.
Technique. Pourtant, à ce moment-là, t'es quand même bien évolué. Ça fait longtemps que tu dessines déjà.
Ça fait longtemps que je dessine, mais en fait, pendant très longtemps, je me suis cantonné aux personnages.
Mm.
C'est ce qui m'intéresse dans le dessin, dans l'histoire. C'est les personnages et les décors. Je les ai un peu mis de côté et j'ai un peu mis le scénario de côté aussi.
Ok.
Parce que pendant longtemps, en fait, tu sais, j'écrivais beaucoup d'histoires, mais à un moment, pendant longtemps, on me disait que mes histoires étaient nulles.
Et d'accord.
En fait, bah, ça
qui te disait que tes histoires étaient nulles?
Je peux pas dire, ça va les.
Ouais, ok.
Ça va les. Mais ouais, on m'a dit que mes histoires étaient nulles, que je savais pas écrire et tout ça. Et ils se sont excusés depuis, ces gens. Mais ça te démoralise.
Ça m'a un coup, ouais.
Ça, t'as plus envie d'écrire, en fait.
Mmh.
Et du coup, bah,
je faisais de
l'illu. J'ai plus écrit. Que de l'illu. Des BD pour moi, seulement. la première BD que j'ai refaite, et je crois que c'est le Nezrossa, ma okay. BD sur l'univers Pokémon, qui est sur Manga Draft. Je crois que c'est la première que j'ai repostée à nouveau, tu vois, en reprenant confiance. De toute façon, le scénario, il y avait pas de scénar. Mais ouais, ça met un coup quand, pendant longtemps, on te dit, t'es nul dans quelque chose.
T'as plus envie de le faire. Tu te dis, autant je me concentre. Et puis tu te dis, ok, je me concentre sur ce au quoi j'ai à peu près des capacités.
C'est ça. Alors que non, même si mes histoires étaient nulles, honnêtement, il faut dire que c'est pas que c'est bien, mais essayer de trouver un petit truc.
Un point positif, ouais.
Même si c'est nul, mais ouais, trouver un point positif pour relever le truc, quoi. Parce que, on s'améliore. Hein. Et tu vois, même actuellement, mes histoires, j'ai pas confiance.
C'est resté.
C'est ça. J'allais dire, je sais que j'écris bien. J'écris. C'est cool. J'aime bien mes histoires, mais j'ai toujours pas confiance.
Ouais, mais est-ce que c'est pas le plus important que toi t'aimes bien tes histoires?
Ah oui, moi je kiffe. Moi vraiment je kiffe. Mais tu vois, même avoir eu un commentaire de Toriyama et Kazue Kato sur une histoire à moi. C'est over cool, mais il y a quand même ce côté confiance en soi.
Ça reste qu'un pansement.
C'est ça, c'est ouf. C'est terrible. Vraiment.
Parce que quand on t'a dit ça, t'avais quel âge?
Je saurais pas te dire.
Ok.
Je pensais la vingtaine.
Ok. Donc voilà. Pourtant, t'étais quand même bien consciencieux de toi-même, entre guillemets. Enfin, t'avais conscience de toi.
Je pense que j'étais pas mature.
T'étais pas encore mature?
Non. Après, je le suis toujours pas. Un peu plus, je pense. Mais à 20 ans, je pense que j'étais vraiment pas mature.
Hein. Ok. Peut-être que t'étais pas encore confronté à la réalité de certaines autres choses et trop resté dans ton coin ou trop dans le dessin, je sais pas.
C'est possible. C'est possible. Pourtant, je commençais à travailler. Il fallait rentrer de l'argent. Il fallait aider la famille. Tout ça, parce que. Comme ça. Donc, non, je travaillais, je gagnais de l'argent, tout ça. Mais non, à 20 ans en plus, non.
Et ça fatigue les boulots comme ça?
C'est horrible.
Ouais.
C'est horrible. Préparateur de commandes pendant deux étés d'affilée. J'ai fait éboueur pendant 2 ans. Ça, c'est vraiment 2 ans non-stop. À l'usine, au chantier, enfin des...
Et à ce moment-là, tu disais quoi? Faut que je vive de la BD? Ou genre, t'étais dans ton rythme et...
Non, là, le but, vraiment, c'était avoir de l'argent.
Okay.
Je savais que je finirais pas ma vie là-bas.
D'accord.
C'est vraiment, c'était, en plus, c'était toujours des potes qui m'avaient rencardé. Genre, Eboueur, c'était un pote qui, son père, il travaillait.
Okay.
Il m'avait dit, vas-y, je fais rentrer les poteaux. C'était vraiment pour gagner de l'argent. C'était juste l'été. Mais en fait, j'y suis resté 2 ans.
Ouais.
Et à un moment, j'ai dit, c'est bon, ça suffit.
Faut arrêter.
On va donner des cours de dessin.
Bien sûr.
J'ai donné des cours de dessin pendant 5 ans. C'était vraiment trop bien.
J'étais beaucoup plus épanoui déjà.
Ah ouais, non, mais les jeunes, ils étaient à fond. Mais tu vois, au fil des années, la motivation baissait. Et j'avais plus cette niaque du début, quand je donnais les cours au début.
Et à ce moment-là, tu voulais poser déjà des dossiers d'édition ou des trucs comme ça? Ou c'est pas quelque chose que tu
J'en ai jamais fait.
Ok.
Le seul que j'ai fait avant Lille Berry, par exemple, ouais. C'était avec Johan Vornier, donc l'auteur de Silence.
Ok.
J'avais un projet qui s'appelait Billy the Ripper. Et ça se recoupe.
Ouais.
C'était un faucheur d'âme. C'était un mec qui, en fait, il meurt, il se fait écraser, comme dans tous les isekai. Et en fait, il devient faucheur, il doit remplacer la mort. Et Johan, il m'avait dit, vas-y, je te donne un coup de main si tu veux pour écrire le scénar. Il m'avait aidé à écrire le truc en 5 tomes. On l'avait envoyé. Ça avait pas du tout marché. Mais, quel âge j'avais? Vraiment, je sais plus quel âge j'avais, mais 25, je pense.
Ok.
25, mais ça.
Donc, juste avant Lille Berry?
Ouais. Enfin, okay. Un petit peu avant. Entre temps, j'avais rencontré Élise à Japan Expo.
Bien sûr.
Grâce à Monsieur Box.
Donc, Élise, pour mettre en contexte, c'est l'éditrice d'Ankama.
C'est ça. C'est la ponte. Et grâce à Monsieur Box, je l'avais rencontré. Après ça, il y a des souvenirs qui reviennent. Il y avait une scénariste qui m'avait contacté avec qui elle m'avait proposé un projet pour Ankama.
Ok.
Ça avait pas fonctionné du tout parce que le feeling était pas passé. Mais du coup, elle avait mal parlé de moi, Ankama. Et du coup, moi, j'étais mal vu.
Surtout que, en plus, toi, Ankama, c'était un peu un rêve.
Moi, depuis 15 ans, je joue à Dofus. Et c'était vraiment
l'entreprise.
Quand j'ai choisi Ankama, c'est parce que c'est le choix du cœur.
Ouais.
Parce que vraiment, j'avais vraiment envie de bosser avec eux. Et j'apprends que je suis blacklisté, entre guillemets.
Alors que tu n'as jamais rien fait avec eux.
Mais d'où je suis blacklisté? Et du coup, la Japan Expo d'après, je revois Élise. Et puis, je lui explique le quiproquo, parce que c'était clairement un quiproquo. Elle me fait, non, mais Il y a pas de souci. Donc banco. Il y a eu Lil Berry juste après du coup.
Et Lil Berry qui est assez marrant parce que à l'époque tu postais justement tes dessins sur Facebook.
Ouais, sur Facebook.
T'avais beaucoup de personnes qui venaient te voir en mode on a un scénar, on voudrait que tu dessines.
Ouais, c'est vrai.
Et là il y a alors je crois c'est Fabien
Dalmasso
qui vient te voir et qui te propose Lil Berry.
Ouais.
Sachant que lui, il a déjà sorti des BD avant ça.
C'est ça. En fait, il avait 20 ans déjà de carrière dans la BD. Et je pense que c'est ça qui m'a rassuré, entre guillemets. Même si l'expérience, au final, a été plus mauvaise, plus négative que positive. Mmh. En fait, il y a eu de tout. L'expérience, elle était bonne parce que j'ai vu tous les côtés du milieu. Que ce soit négatif, positif, que ce soit avec le relationnel avec l'éditeur ou avec un scénariste. Je sais que, par exemple, je ne veux plus jamais travailler avec un scénariste.
D'accord.
Et c'est vraiment pas à cause de lui. C'est juste moi. Je pense que je suis pas fait pour travailler avec quelqu'un. C'est, il faut faire trop de compromis, trop de prises de tête.
Et moi, j'ai une info sur Lil Berry. Je sais pas si elle est vraie, mais au bout d'une semaine ou deux de sortie, tu savais que c'était fini la série.
Ouais.
C'est dinguerie.
Dès qu'on a fini le tome 1, il y a eu le mail, après là c'est de l'intime, c'est plus du personnel.
Ouais.
Donc je sais pas si je peux rentrer dans les détails vraiment, mais l'éditeur s'était engagé pour 3 tomes, donc ça c'est cool. Il est pro, on est allé jusqu'aux 3 tomes, mais il y a plein de trucs sur lesquels c'était vraiment pas du tout pro.
Okay.
Alors que c'est des gens qui se targuent d'être pro, d'avoir de la bouteille, nananine. Bah non, mais si t'es pro, tu fais pas ce que t'as fait en fait.
Ok.
Et bon, mais voilà, ça s'est bien passé en général, mais et puis ça fait un premier pied dans le milieu.
Bien sûr. Et puis tu fais quand même 3 tomes, ça fait des planches,
ça fait 600 pages, 600 pages pour s'entraîner. Il y a des gens qui découvrent mon travail, ça c'est plutôt cool. Mais Lil Berry se finit, le tome 3 se sort avant le confinement, donc il passe sous les radars vraiment. Moi en plus, quand le confinement se finit, je leur envoie un mail, je leur dis il y a moyen de refaire un peu de com et tout. Zéro réponse. Donc, bon, bah, ciao Delcourt Oncam. Ouais. C'est finito.
C'est vrai que c'est un livre que j'ai pas du tout vu passer pour le coup.
Non, mais le tome 3.
Le 1.
Même tout.
Ouais. Faut être honnête.
Non, parce que Delcourt Oncam, en fait, ils font pas de créa française. Ils ont fait quoi? Ils ont fait Loa ou Lao? Loa, je crois.
Je serais même pas dire, je suis pas trop là, cette maison, ouais.
Et là, ils font les légendaires saga.
Ouais.
Mais les légendaires, bah.
En fait, connu. Il y a la licence qui est derrière.
C'est ça, il y a la licence, donc ça fonctionne.
Mm-hmm.
Après, je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais voilà.
Les gens connaissent les légendaires, l'achat est plus simple.
Donc, en créa manga française, Delcourt Oncam.
Ok.
Faut pas.
Ok.
Vraiment, je conseille pas.
Et là où Ankama, à l'inverse, a fait énormément de créa par eux-mêmes et tout, donc ils sont un peu plus.
De toute façon, Ankama, ils font que de la créa.
C'est ça. C'est la différence.
Française, francophone. Européenne ouais. Parce qu'il y a des auteurs allemands, italiens, tout ça.
Bien sûr.
C'est plutôt cool. Sauf qu'on peut pas avoir de manga gratuit comme chez Kana ou Pika.
Ouais,
bon, dommage. On peut pas tout avoir. Mais
l'argent du beurre.
Ouais, c'est ça. Mais le relationnel est cool. Ça se passe très bien. Et
ça, c'est les gens du Nord. Tu sais, ils sont accueillants et tout. Ouais, je pense.
Ouais,
je sais pas. Ils sont accueillants, les gens à Valenciennes.
Oui. Bon, ouais. Voilà. De toute façon, partout où je vais, les gens sont accueillants. À part un endroit, je peux pas dire où, putain.
Ah ouais, tu veux pas?
Je peux pas.
Tu me le diras après?
Ouais.
Je le mettrai en description comme ça.
non, vraiment, tous les gens sont cool. Ouais, quand je suis allé dans les locaux d'Ankama, en plus, la première fois, c'était très cool.
Ouais, c'est stylé, les locaux d'Ankama.
Ouais, ça s'est super bien passé.
Pour reprendre Lil Berry se finit, en gros.
Ouais.
Et
c'est le confinement.
C'est le confinement, donc bon, le confinement se passe. Mais qu'est-ce qui se passe?
Il y a le Tezuka.
Tu commences à faire un dossier d'édition sur Reaper.
Ouais.
Inspiré de...
En fait, il s'est passé énormément de trucs pendant cette période du confinement. Parce qu'il y a eu... Lil Berry se finit. Il faut payer le loyer. Mmh. Il faut faire des projets. Donc moi, j'ai ce projet qui tient sur un post-it.
Il y a la classique.
Power Ranger plus éboueur. Il faut que je fasse ce projet. Vraiment, j'ai envie de faire ce projet. Donc je commence à écrire 2-3 trucs. En même temps, il y a Tsume Edition qui faisait du manga.
Ouais.
Avec Kuro Tsume qui s'est... royalement cassé la gueule, mais à cause du Covid.
Ouais.
Et puis même, c'était pas tip top. Mais et du coup, il y a Tsume qui pouvait potentiellement être intéressé. Mais en fait, ils voulaient pas faire Reaper. Ils voulaient que je fasse leur projet. Et après, si ça fonctionne, on peut faire Reaper.
Genre, eux, ils ont une histoire. Toi, tu la dessines.
Mais pas chaud. J'étais allé jusqu'à... C'est où?
Luxembourg.
Ouais, j'étais allé jusque là-bas, chez eux, dans les locaux. Mmh. Incroyable, les locaux.
Ouais.
C'est ouf. Mais... J'ai pas aimé. J'ai okay. vraiment, c'était, le feeling, il était pas là. Donc, s'il y a pas de feeling, s'il y a pas le côté humain et tout, c'est mort. Et du coup, c'est le confinement. Tsume, c'est passé. Lille Berry, c'est passé. Il y a l'annonce du Tezuka. J'ai que ça à faire. De toute façon, on a tout ouais. que ça à faire. On est chez nous. Il y a des cerfs qui gambadent sur la route. Et le Tezuka, il y a un jury de fous.
Ouais, parce que c'est la première fois qu'ils ouvrent le concours à l'international.
Oui, pour la centième.
C'est incroyable.
Pour la centième. Oda, Toriyama, Kazue Kato.
Kazue Kato, c'est Blue Exorcist.
Blue Exorcist, okay. Koei Horikoshi, My Hero okay. Academia, Takehiko Inoue et Tezuka Productions. Donc, tout
donc ouais, ok. Tu peux pas rêver mieux.
C'est vraiment... c'est ouf. Il l'ouvre au monde et il y a un jury, c'est les dieux du manga.
Surtout pour un mec comme toi, tu sais, qui a commencé à dessiner avec Dragon Ball, qui est hyper fan de One Piece.
Ouais, non, c'est ouf. Et c'est le confinement, donc je me lance sur Twitch, et du coup je fais le Tezuka sur Twitch.
Ouais, les mercredis.
C'est ça. Non, là, quand c'était le confinement, okay. c'était un peu tous les jours. Okay. C'était vraiment quand il y avait le temps, quand j'avais envie d'avancer. J'ai fait les 55 pages, du coup, en 45 jours.
Ce qui est bon rythme.
Ouais, et du coup, ben, en fait, les gens venaient découvrir mon travail en même temps, et puis, bah, ils voyaient comment on faisait une page, etc. Moi, j'avais fait sur la fin de Lille Berry, j'avais fait ma transition tradi numérique okay. sur Clip Studio Paint. Et en fait, le Tezuka, c'était vraiment l'occasion de maîtriser Clip Studio Paint et la tablette pour faire Reaper après. Okay. Parce que j'avais fait le dossier. En fait, je faisais le dossier en même temps de Reaper et le Tezuka. Donc, c'est vraiment dossier, Tezuka.
Puis, les gens, ils étaient dans la même situation que toi, confinement, du coup, ils n'avaient rien à faire, ils regardaient le stream.
Et... Franchement, les Twitch, c'était la belle époque. C'était bien, le monde était heureux. Et, et du coup, j'envoie le Tezuka en août, je crois que c'était août, la date butoir. J'avais déjà envoyé le dossier, j'étais en discussion avec Ankama, Kana...
Pika, Glena.
Pika, c'était encore H2T. C'est mort, je signe pas avec H2T.
Pourquoi ?
Parce qu'ils payent pas leurs auteurs, tout simplement. Donc, bah, payez vos auteurs et peut-être que, voilà, tout simplement. De toute façon, H2T s'est cassé la gueule après. Maintenant, c'est la nouvelle hydre. Ouais. Mais bref. Mais maintenant, Pika refait de la créa.
Mais oui, Pika faisait déjà de la créa avant, puisqu'il y a des,
après, il y a eu Uber, H2T.
Et après, il y a eu H2T et maintenant, refont de la
créa. C'est ça. Okay. Ils reviennent sur de la créa, ce qui est plutôt cool. Et donc, moi, c'était vraiment, j'hésitais entre Kana. Qui était très cool aussi, qui proposait vraiment un bon truc, et Ankama, le choix du cœur, comme on disait. Et bon, j'ai pris Ankama parce que bon, je sais pas, il y a une aura, je trouve, autour d'Ankama qui fait que j'avais envie de travailler avec eux,
un peu cette culture d'entreprise, cette culture de la marque, enfin tu vois,
ouais, peut-être, je sais pas, il y a, non, c'est le côté imaginaire, on m'avait dit, ouais,
okay.
Fait, c'est le côté, ouais, le côté imaginaire, vraiment l'imaginaire d'Ankama.
Le cosmos, tout ça, ouais, ça quand même, c'est rayonnant, ouais.
C'est ça me parle, et du coup, go. Et du coup, en septembre, au moment où je signe, je suis en visio avec les éditrices de chez Ankama, au moment où on signe pour Reaper, il y a mon téléphone qui sonne.
C'est ça.
Je reçois 10 000 messages.
Parce que c'est ton anniversaire.
En plus, c'est mon anniversaire. Et je reçois en même temps, putain, t'as gagné, t'es deuxième au Tezuka, etc. Et moi, je suis en visio, je suis en train de parler. Je vais arrêter de me parler, qu'est-ce que c'est, quoi? Je suis deuxième. Ah ouais? Et du coup, il y a trop d'informations. Vraiment, c'était trop. La dopamine, elle explose. Et du coup, je leur dis, ben là, en fait, je viens de remporter la deuxième place du Tezuka et tout. Et bon. Elles étaient pas au courant de ce que c'était.
C'est hyper drôle, ça.
Elles étaient vraiment pas au courant de ce que c'était. Je leur ai appris ce que c'était l'application Manga Plus, où tu pouvais lire le Shonen Jump, gratuitement, quoi. Tu vois? Mais c'est pas méchant, hein. C'est juste, bah, elles étaient pas au courant. Ça arrive. Et du coup, ouais, ça leur faisait rien.
Ni chaud, ni froid.
Ouais, c'est ça.
Alors que pour toi, c'était genre le meilleur.
Il y a Toriyama qui m'a fait un compliment, quoi.
Ouais.
Et.
Sur 5000 personnes.
Ouais. 5000 participations à travers le monde. Et non, c'était ouf. C'était vraiment le jour.
La renaissance.
C'est ça. La dopamine qui explose.
Je mettrai le lien du one shot dans la description.
Il est disponible sur Manga Plus Creators, du coup, en anglais.
Bien sûr.
Et c'est marrant parce que sur le site Manga Plus, il y a Juan, il y a une case avec Juan, le personnage de Devil Dive Inferno, qui est là toujours, donc qui sera là toujours à vie. Et ça, c'est, bah, c'est, ouais, c'est sympa.
Ouais, c'est grave cool. Ouais. Puis là, comme tu dis, t'as le message de Toriyama, tout ça.
Ouais, donc, et de Kazue Kato aussi.
Kazue Kato.
Alors, ouais. Je suis moins fan de Blue Exorcist, même si je respecte son travail parce que le style est ouf.
Le style est ouf.
Mais Toriyama, comme j'ai commencé avec Dragon Ball, premier manga que je lis, c'est Dragon Ball. Et là, il me fait un compliment. Ça, tu vois, le truc, il change ma vie. Et lui, il s'en fout. Il a lu. Et bon, ben, il est aux îles Canaries, là, maintenant.
Ouais, c'est ça.
Donc, il s'en fout. Et c'est ouf.
En plus, sur un sujet que tu kiffes, genre le catch.
En plus. La lucha libre.
La lucha libre.
Ouais, 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 le catch. Les masques.
Ok.
Toujours ce délire de masque.
Ça, on change pas.
Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai un délire avec les masques. C'est, je sais pas.
Ok, mais du coup, enfin, nouvelle de ouf. En plus, donc, t'as un petit prix, une récompense pécuniaire, plus ouais. Un voyage au Japon, qui est un incroyable voyage au Japon. On va passer cette étape parce qu'elle est pas encore existante. Mais
bientôt.
Ah ouais.
Mais en décembre là.
Ah ouais.
Ouais. Je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais
le 27.
Le 27 décembre.
Ouais.
Eh ben la cérémonie c'est le 11 décembre.
Ok.
Donc je serai ouais. En fait, ça j'ai appris ça il y a un mois. Ça s'est booké c'est encore en train de se booker. Mais du coup, ouais, le 11 décembre.
Tu pars au Japon.
Je fais l'aller-retour. 2 jours. Vraiment l'aller-retour, pas du tout écologique. Déplacement ministériel presque. J'y vais, cérémonie, je reviens. Et je sais pas du tout ce qui va se passer.
Tu sais pas qui est présent, tu sais rien?
Absolument rien. Je sais ouf. Où c'est, mais c'est tout. Je sais vraiment pas ce qui va se passer.
T'as déjà été au Japon?
J'y suis déjà allé.
Okay.
Mais j'étais pas seul.
Okay.
Là, je vais être tout seul. Je flippe. Franchement, je flippe beaucoup parce que, en fait, voyager, c'est pas trop mon truc.
Mm.
Et alors, tout seul, à l'autre bout de la terre, tu vois, genre venir à Valenciennes.
Ça va.
De Avignon, Valenciennes.
Avec les copains en plus.
C'est ça, il y a les poteaux et tout. Là, il y aura personne. Il y aura personne, je sais pas, je parle pas japonais. Enfin, je vais dire, toilet, toi, dokodesuka. Voilà, ils font les toilettes. Et c'est tout, quoi. Mais c'est tout.
Bon, après, si t'as une place en plus, moi je prends, mais.
Ben viens, si tu veux.
T'as une place?
Il y a pas de place, mais tu peux venir. En fait, je voulais y aller avec ma compagne.
Mm.
Mais, ils payaient rien.
Ouais, c'est ça le problème.
En fait, ils auraient pris sa place dans l'hôtel, ils auraient pris la place dans l'avion, tout, mais c'était à elle de payer les frais et tout. Normal, hein, bon.
Mais ça fait cher pour 2 jours.
C'est ça. Ça ouais. Fait trop cher pour 2 jours.
Ouais, normal.
Donc voilà.
Ok. Donc septembre 2020, c'est le septembre miraculé, c'est la renaissance.
C'est ça.
Et une fois que tu vois, genre là, on va pas se mentir, tu gagnes un concours qui est mondialement connu. T'as été hyper actif sur Twitch. Du coup, t'as une commu qui commence vraiment à se créer.
Ouais, je pense que c'est à partir du. Honnêtement, moi, je pense que c'est à partir du Tezuka que les gens ont commencé à connaître mon travail.
Ok.
Lilberry, c'était vraiment le balbutiement. Parce que bah ça c'est il y a pas eu trop de pub autour et vraiment le Tezuka plus Twitch plus les streams Twitch où les gens en fait sur Twitch à ce moment-là je donnais des cours de dessin parce que j'étais rémunéré par une association comme c'était le confinement ils m'ont dit bah vas-y fais des cours de dessin que je faisais en présentiel en fait avant le confinement et je suis ultra décousu hein, je fais tout à l'envers et donc je donne des cours de dessin de BD manga. Comment on fait une page, comment on met les trames, comment on gère Clip Studio. Mais j'apprenais en même temps, hein, parce que Clip Studio, je commençais. C'était après le Tezuka. Je venais de finir le one shot du Tezuka. Et il y en a beaucoup de la commu du Bosquet.
Ouais.
Big up au Bosquet, le Discord du Bosquet.
Tu l'as créé quand le Bosquet?
Je l'ai créé, je crois, un an après la création de la chaîne Twitch. Donc en 2021.
Ok,
je crois. Fin 2021, je crois en plus.
Je mettrai aussi en description, donc tu auras tes réseaux.
Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, la plupart, le noyau dur de ce Bosquet, qui est dans Reaper aussi.
T'ont aidé à comprendre le Clip Studio et tout?
Ouais, 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 vraiment, c'était un échange.
Okay.
C'était vraiment un échange. Ils étaient là pour apprendre. La plupart, ils avaient jamais dessiné. Et ils ont kiffé le dessin grâce à ces cours que je donnais. Et ça, c'est trop cool. Et maintenant, ils soutiennent Reaper à fond. Ils en parlent tout le temps. C'est le bouche à oreille, de toute façon. Hein. En manga français, le bouche à oreille, ça fonctionne de fou. Et vraiment, je les remercie tout le temps, quoi. Ils sont incroyables.
Trop bien.
Donc, voilà.
Tu commences à avoir du monde sur ce Discord, en plus.
Il y a 400 personnes. Après, j'en fais plus trop la pub parce que je stream moins.
Mm.
Parce que j'ai beaucoup de taf.
Ouais, mais tu vois, c'est un Discord qui est maintenant même sans ton intervention active, tu vois.
Ouais, c'est ça. Il y a toujours des gens en vocal qui papotent, qui dessinent entre eux, tout ça. Attention si vous allez en vocal, c'est un peu des sauvages, mais
okay. J'ai été une fois.
C'est vrai ?
J'étais une fois.
C'est un peu des sauvages. Ils sont trop cool.
Ouais, très accueillants et tout.
Ouais, ouais, ouais. Et non, ça se passe super bien. Je mets des avant-premières dessus. Par exemple, avant la sortie du tome 3, j'ai mis le premier chapitre du tome 3.
Ce que t'as remis après sur Instagram plus
c'est
tard.
C'est ça, oui. Mais sur le Discord, j'ai mis toutes les premières pages.
D'accord.
Que j'ai pas mis sur les réseaux. Donc pour eux, pour le soutien qu'ils apportent, pour le fait qu'ils soient sur le Discord, j'ai mis vraiment toutes les pages, tout le chapitre. Avec les pages couleurs, voilà.
Ah, trop bien.
Il voit pratiquement tout en avant-première, etc. Donc.
Et une fois que t'as sorti, Tezuka est passé tout ça, t'as entamé Reaper, t'as signé.
Ouais.
Là, tu passes, j'imagine, une petite période de frigo ou quoi que ce soit, ou il n'y a pas chez Ankama?
J'ai fini le premier tome en entier avant qu'il sorte. Donc, je signe.
Après, c'est logique de finir le tome avant qu'il sorte.
Ouais, oui. Non, mais enfin, oui, c'est vrai. Je signe fin 2020 et il est sorti en juin 2022. Donc ouais, ça m'a pris tout 2000. En fait, il m'a pris 8 mois.
Mm.
Mais jusqu'à la sortie, il y avait tout ce qui est la maquette, le logo, la couve qui était m'a pris 2 mois.
T'as eu du mal à la faire ?
Ouais, parce qu'en fait, c'est la couve du tome 1. Et le tome 1, il faut qu'il soit marquant et en plus en manga français où t'es à côté de 95% du marché qui est japonais et qui sort vraiment, tu sais, c'est le tractopelle, c'est...
Ah bah oui, t'as 200 sorties par semaine.
C'est ça. Donc il faut que ton tome 1, il se voit à travers l'étalage. Tu vois, par exemple, la couleur verte, elles étaient pas d'accord. Moi, je voulais vraiment cette couleur verte, fluo qui tape. Parce qu'en tome 1, souvent, tu sais, c'est du rouge, c'est du orange, c'est des couleurs chaudes, pétantes. Moi, je voulais du vert. Moi, j'ai mis un peu de rouge. Mais il fallait qu'il y ait ce vert pétard, je sais pas, j'avais envie qu'il y ait du vert. Mais vraiment, ça m'a pris 2 mois pour réfléchir. J'ai fait 50 compos, le logo, j'ai fait 50 logos, même plus, pour que le truc soit pas parfait, parce que rien n'est parfait, mais pour
que ce soit plus réfléchi possible.
Correct,
plus, ouais.
Vraiment, pour que quand tu es en magasin, tu vois la couve du tome 1, elle t'attire l'œil. Et c'est souvent ce que disent les gens en dédicace et en librairie. Ils disent, putain, la couve du tome 1, elle m'a chopé, quoi. J'ai vu la couve du tome 1, j'ai pris direct parce qu'elle est attrayante et tout. Donc, tant mieux.
Paris réussi.
Ouais, tant mieux. J'ai réussi, entre guillemets. Après, voilà, quand je la revois, je me dis, peut-être que je pourrais refaire ci, refaire ça.
Incroyable.
Mais voilà, trop bien. Ça m'a pris du temps, mais c'est cool. Et j'ai enchaîné sur le tome 2.
Bien sûr.
Donc, j'ai commencé le tome 2, donc il y avait du frigo. Et donc, le tome 2 était bien entamé, mais en même temps, je revenais sur le 1 parce que je refaisais des pages, je refaisais des cases, on retapait les dialogues. Donc, c'était vraiment un ping-pong. C'est ça, un ping-pong sur le tome 1 pendant que je bossais le tome 2 et que je l'écrivais. Donc, tu vois, il faut être vraiment au four et au moulin et c'est...
Un peu chiant.
C'est compliqué, ouais. Les retours sur le logo, sur la couve, il faut faire ci, il faut faire le dos, il faut faire la jaquette, les bonus.
Ok, je vois. Et du coup, après là, ton thème, entre guillemets, ta vie d'auteur comme tu l'as maintenant.
Ouais.
C'est-à-dire, t'enchaînes le tome, les dédicaces. D'ailleurs, t'as un très beau stand à la Japan Expo.
Oui.
C'était vraiment cool.
De l'an dernier, ouais, en 2022. Ouais, pour la sortie du tome 1.
Donc, c'était vraiment sympa.
Ouais, c'était trop cool.
Là, on arrive au tome 3.
Ouais.
Content pour l'instant de ce que t'arrives à produire, du rythme que t'as, etc.
Ouais, ouais, ouais. Trois tomes en un an et demi. Donc, c'est plutôt cool. Je pense que c'est un bon rythme. Mmh. Je sais pas ce que c'est un bon rythme, mais 3 tomes en 1 an et demi, ça va. C'est cool.
Est-ce que le tome 2 est sorti quand?
En janvier 2023. Okay. Donc, de cette année. Et du coup, le tome 3. Donc, 2 tomes cette année, en 2023. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'était vraiment le pari que je voulais avoir. Parce qu'en fait, le tome 2 devait sortir en décembre 2022.
Okay.
Il a été repoussé parce que, en fait, j'ai eu un problème. J'ai perdu toutes mes données sur mon PC. Mais vraiment tout.
Ah ouais?
Et j'étais en boule. Shinji dans Evangelion, en boule, comme ça. J'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien. J'ai appelé sur mon Discord, est-ce que vous avez des conseils? J'ai vraiment tout... Mais vraiment, mon disque dur, en une seconde, il s'est vidé.
Et t'as fait comment?
J'ai téléchargé un logiciel qui m'a permis de tout récupérer, mais j'ai quand même perdu des données, des pages que j'ai dû refaire, des pages... j'avais plus le fichier CSP... C'était tout mélangé, j'ai dû tout...
Et tu sais pas l'expliquer, ça?
Je sais pas d'où ça vient.
L'angoisse.
Mais vraiment, tout en une seconde, tu perds tout. C'est, j'étais au bout de ma vie. Ouais. J'étais au bout de ma vie. Et il y a ma compagne, du coup, qui envoie un message à Renaud et qui lui dit, je sais plus pourquoi, je sais plus comment. Et si, Renaud lui dit qu'il a les chiffres de Reaper de la première semaine. Et elle lui dit, en fait, moi, les chiffres, ça m'intéresse pas du tout. Mm. C'est un truc, je sais que ça va me parasiter et que ça va me prendre la tête plus qu'autre chose.
C'est pour ça que, pareil, tu dis pas pour combien de tomes t'as signé.
C'est ça. Comme ça, okay. ça va me saouler. Et en fait, là, j'étais au bout de ma vie et elle lui a dit, vas-y, dis-lui les chiffres parce que s'ils sont bons, ça va lui faire plaisir. Et comme ils étaient bons, il m'a dit les chiffres et voilà, ça m'a redonné.
Ça fait que Renaud, il était au courant des chiffres dans Okama.
Il est au courant de tout.
Ok.
Il sait tout. Il sait vraiment tout. Mais
c'est le grand Manitou.
C'est le grand Manitou. Mais et du coup, il me l'a dit. Et vraiment, j'ai fondu en larmes parce que j'étais au bout de ma vie et j'étais trop content de des chiffres. En fait, le fait que, comme lui, il a de l'expérience, ça fait 15 ans qu'il fait ça, il m'a dit c'est des chiffres incroyables. Et du coup, bon, bah, j'ai chialé parce que je perds mes données. À côté de ça, il y a une bonne nouvelle. C'était vraiment toutes les émotions en même temps. Et après ça, je récupère mes données, donc tout est bien qui finit bien.
Ouais, ça met un peu l'ascenseur.
C'est ça. Mais le tome 2, du coup, il prend du retard et je l'ai fait à cause de ça, je l'ai fait en un an. Mmh. Presque en un an.
Ce qui est beaucoup.
C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ce tome 2, il y a un rythme un peu plus compliqué parce que c'était compliqué à le réaliser.
Ok, je comprends.
Et c'est là où le tome 3, il a un meilleur rythme, je trouve, parce que j'étais dedans, quoi. J'étais à fond dedans.
Tu parles le rythme de l'histoire. Hein,
oui, ouais, le rythme de l'histoire.
Ouais, bah, du coup, je l'ai lu avant de venir faire l'interview, comme je l'ai chopé aujourd'hui. Cool. J'ai bien aimé.
Ok. Ça va.
Franchement, très sympa.
Trop bien.
Ok. Et du coup, là, tu pars pour le tome 4.
C'est ça. Le tome 4 est déjà entamé à l'heure où on parle.
Avec l'ambition de le faire en combien de temps?
J'aimerais bien le finir en avril-mai 2024.
Pour qu'il sorte Japan Expo?
C'est ça. Pour qu'il sorte en juillet.
Bien sûr.
Et j'aimerais bien que l'année prochaine, donc en 2024, sorte le 4 et le 5.
Ok.
Donc le 5, ça serait pour la fin d'année, novembre ou décembre, plus décembre, je pense.
Plus décembre, voire un petit janvier Angoulême.
Ouais. Mais ça serait cool, deux tomes en un an, ça serait cool.
Ouais, c'est le rythme, le gros rythme français.
C'est ça.
C'est ce que Tony produit. C'est
ça. Mais après, du coup, là, sur le tome 3, j'ai été aidé par trois personnes.
Qui sont auteurs pro et non pro, si je dis pas de bêtises. J'ai pas de nom, par contre.
Il n'y a pas de nom, je dirais pas
les
noms.
C'est pour ça que j'ai pas trouvé.
Il y a leur pseudo dans le tome 3. Okay. Achetez le tome 3, vous verrez leur pseudo. Donc il y a, je peux dire leur pseudo, il y a Pollux, Siana et Philibert, l'invité mystère.
Pollux, je vois qui.
Voilà. Et en fait, ils m'ont aidé sur les 100 dernières pages du tome 3 pour décor, aplat noir, trame, petits traits, ligne de vitesse, vraiment tous les trucs.
Trop bien.
Chiant. Je suis désolé. Ils ont fait des cailloux à l'infini parce que dans ce tome 3, il y a que des cailloux. Et c'est incroyable.
T'es content?
Ouais, franchement, ils ont fait un taf monstrueux. Ouais.
Bah, tu vois, avant de faire mes recherches et tout, enfin, tu vois, même j'avais fait les recherches avant, j'ai lu le tome 3 et moi, j'ai pas tilté.
T'as pas tilté?
Ouais.
Bon. C'est que
leur taf. Et pourtant, je le savais, tu vois.
C'est que leur taf est ouf. Ouais. Non, vraiment, leur taf, ça m'a enlevé une épine du pied incroyable parce que du coup, j'en crée que des personnages. Et si tu veux, moi, en un mois, je fais 30 pages. Et grâce à eux, mais vraiment grâce à eux, j'ai fait le triple en un mois. Parce qu'ils m'ont aidé vraiment beaucoup, beaucoup. Et moi qui voulais pas travailler avec des assistants, du coup, je pense qu'en fait, je vais travailler avec des...
Ça s'est bien passé.
Parce que ça s'est bien passé.
Puis Pollux et tout, c'est des gens qui sont sur le Discord hyper actifs.
C'est des gens que je connais, qui sont très, très cool, avenants, tout ça. Mais même sans ça, en fait, ça s'est bien passé parce qu'ils ont fait un taf titanesque.
Ouais, bien sûr.
Et ça m'a juste permis d'aller plus vite et de sortir le tome à temps. Parce qu'en fait, comme le 2 avait pris du retard, j'avais pas envie que le 3 prenne aussi du retard.
Bien sûr.
C'est con, de penser comme ça, mais j'avais pas envie vis-à-vis du lectorat qui est encore du retard, je me serais dit, putain, je les déçois encore, alors que pas du tout, parce que le lectorat, il est là, mais fais attention à ta santé, repose-toi et tout, ils sont trop cool, mais je sais pas, il y avait un truc, t'as pas envie de décevoir une deuxième fois.
Bien sûr.
Même s'ils ont pas été déçus. Hein.
Moi, il y a un truc qui me fait rire quand même, c'est sur les bonus. Ouais. Sur le tome 3, justement, ouais. Tu dis, bon, le tome 2, j'avais du retard sur le retard, du coup, il n'y avait pas de bonus, mais là, j'ai mis des bonus.
C'est ça. Mais le retard s'accumule sur le retard et tout, mais là, pas de retard. Le tome sort à temps, okay. Est rendu à temps, nickel. Et pour le tome 4, ouais, je pense qu'ils m'aideront encore. Et puis 5 et ainsi de suite.
Trop bien.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, trop bien.
Donc,
du coup, j'ai une question, c'était comment tu... Alors, je vais dire un truc qui a rien à voir avec l'interview, mais s'il y a un mec qui commente toutes les vidéos et qui dit que je dis beaucoup du coup, et là, je me rends compte que j'ai encore dit, du coup, je m'excuse.
Mais je dis aussi du coup, moi.
Ouais, c'est, je pense, un tic de langage qu'on a beaucoup, enfin, que beaucoup de gens ont. Une de mes questions que j'avais, c'était, et tu as un peu répondu, mais c'est comment est-ce que tu te sens aujourd'hui par rapport à ton métier? Mais visiblement, là, je vois un Géraud qui est quand même épanoui et qui est assez serein sur...
c'est de la psychanalyse.
Un peu.
Oui, épanoui, oui, oui.
Tu vois, genre, t'as l'air d'avoir trop un rythme.
Alors, c'est une question que je me pose pas, je me psychanalyse pas, honnêtement. Mmh. C'est pas un truc qui me parle. Moi, je suis bien parce que je suis chez moi, je me lève le matin et je dessine. Voilà, je me couche le soir, je pense à Reaper, je me lève le matin, je dessine. 7 jours sur 7, du matin au soir, c'est l'essentiel. C'est le seul truc que je demande, rien d'autre. Je veux pas remplir des papiers, je veux pas les impôts, l'URSSAF, l'IRSEC. Lâchez-moi la grappe.
Ça, tu fuis.
Lâchez-moi la grappe.
Merci.
Mais de toute façon, ils te chopent par le callback. Mais non, juste vraiment, ouais, dessiner et surtout voir que les gens kiffent l'histoire
ouais.
que j'écris, bah, c'est trop cool. C'est vraiment le plus important. Voir les, bah, sur le Discord, il y a un channel théorie. Lire les théories des gens. D'ailleurs, il y a une théorie qui s'approche à 80% de la vérité.
Ah ouais.
Je dis pas laquelle, mais vraiment, il touche vraiment.
En plus, toi qui kiffes One Piece, tu dois être aussi un peu un aficionado des théories dans les mangas et tout.
Je kiffe ça. Donc là, ça doit faire... J'en ai plein sur One Piece.
Ah ouais.
J'en ai plein sur One Piece que le Moncorvo n'a pas dit.
Ok.
Donc c'est mes théories à moi.
C'est quoi là un peu la théorie tu te dis un peu choc, tu vois. Enfin, celle qui tu dis.
Dans One Piece. Choc,
tu vois. Que toi t'as et que tu te dis.
Que les Mugiwara vont finir sur la Lune.
Ok.
C'est obligé.
Ok.
Pour moi, c'est obligé, ils vont aller sur la Lune. Et
pour le bail avec NR, tout ça ou...
Non, même pas, parce que, en fait, on parle One Piece, là
Je pensais pas trop le...
On parle One
Piece. Au pire, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un aparté à la fin de l'interview. Et on fait
sur les théories One Piece.
Donc, je vais passer à... un peu la deuxième partie de l'interview, là, on a fait un peu l'histoire de Géraud.
Ouais, putain, c'était long.
Et là, je vais te proposer des phrases
ouais.
que j'ai notées.
Ok.
Que tu vas devoir commenter ou mettre un contexte enfin, et commenter.
Ok, j'ai peur.
Est-ce qu'on flexe beaucoup quand on est validé par par Toriyama ?
Et malheureusement, oui.
Ouais.
Malheureusement, oui, mais il y a des gens, ça plaît pas. Hein.
Ouais.
Tu l'as vu. T'en as entendu parler?
J'ai regardé une interview où t'en parlais, mais je sais pas pourquoi.
C'était l'époque où on faisait Team Mangaka.
Ok.
Avec l'inspecteur. Il avait réuni Renaud, Johan, Ziad, tout ça, et il nous réunissait, je crois que c'était tous les mardis soirs. Il y avait Jigito aussi, Yamishin, etc. Et c'était l'époque, ouais, c'était en 2021, donc c'était l'époque Tezuka. Le Tezuka venait de se finir. Et oui, je flexais, je sais pas si c'est le terme, mais bah, j'en parlais beaucoup. Je me suis fait un mug avec les commentaires de Kazue Kato et Akira Toriyama. Je bois tous les matins mon thé dans ce mug. Mais parce que c'est ouf.
C'est ouf.
Enfin, je sais pas, j'ai un commentaire Toriyama, je vais pas me la boucler. Et l'anonymat sur Internet. Il y avait des mecs dans le chat à chaque fois. Mais boucle-la, ferme ta gueule. Arrête d'en parler. Tu fais qu'en parler du Tezuka. C'est bon, on souffle, on en a marre et tout. Et à côté, t'en as, mais si, t'as le droit de flexer, enfin, c'est
Internet.
Ouf.
Internet dans sa splendeur.
Il n'y a pas de demi-mesure, c'est blanc, noir, basta. Okay. Et bah, tant pis pour eux. Mm. Moi, j'ai fait qu'en parler pendant très longtemps, parce que bah, en fait, moi, je réalise toujours pas.
Et puis, c'est un truc qui va arriver qu'une fois.
Déjà. Et vraiment, c'est un truc que je réalise pas. Je réalise toujours pas que Toriyama, que Oda, qui est un de mes auteurs préférés, a lu une de mes histoires.
Ouais.
Je trouve ça ouf.
Complètement.
Parce qu'il dit, bon, il a dû la lire comme ça, mais il l'a lu. Et comment tu veux réaliser ça? C'est pas palpable, c'est pas matériel. Là, peut-être je vais pas les voir, mais peut-être je vais le réaliser
ressentir, ouais.
En étant la cérémonie. Mais ouais,
okay.
Je sais pas quoi dire d'autre. J'en parle moins.
J'ai une deuxième phrase. Je pense savoir qui c'est et je ferai mon hypothèse, mais t'as failli travailler avec un youtubeur.
Ouais. Le chef otaku.
Ouais, c'est ce que j'avais.
Avec le chef otaku. Pour Menu Manga, le manga.
Ouais.
Avec Pika, d'ailleurs. Mais le pauvre Pika, il le...
Ils l'ont un peu mené en bateau.
Ah, il le baladait, hein. C'est dommage. Hein.
Ouais.
C'est dommage. Mais c'était vraiment un entre-deux. Il m'avait contacté pour le faire. Il devait y avoir Mister Box de base dessus, qui a pas pu. Après, il m'a contacté. J'avais fait, j'avais storyboardé le premier chapitre, donc 50 pages. J'avais fait des designs et tout. Mais au final, en fait, c'est des commandes. Et il y a un mangaka qui m'a toujours dit, tu préfères quoi ? Tu préfères une commande ? Tu préfères ton histoire.
Ok.
Et bah c'est sûr que je préfère faire mon histoire. Donc,
ok, je comprends.
Mais après voilà, ça s'est pas fait comme ça. C'est pas moi qui lui dis bah vas-y stop, je vais faire mon
histoire.
C'est
oui,
vraiment
bien sûr.
Pika. Il...
C'est aussi ce que enfin je savais pas que c'était Pika, mais c'est aussi ce que chef avait dit dans son interview où il expliquait que
ouais, il en a parlé.
Menu Manga, il était passé par plein d'auteurs.
C'est ça.
Plein de fois ça avait été annulé. Enfin, c'était un peu une galère. Ok.
Ouais.
Troisième phrase. Krappy, c'est le cousin de Rocket ou pas?
Ouais.
Ok.
Ouais.
Gros fan des Gardiens de la Galaxie.
Déjà gros fan des Gardiens. La trilogie de James Gunn, incroyable. Même s'il y a des défauts, rien n'est parfait, hein, comme je disais. Mais incroyable trilogie. Et toute la dynamique en fait de l'équipe du Shen, j'aimerais bien une dynamique comme les Gardiens.
Où ça crie beaucoup.
Où ça crie beaucoup. En fait, c'est une famille dysfonctionnelle.
Mm.
Moi, j'ai toujours connu ça. Désolé, papa et maman.
Il y a de l'amour, mais ça crie.
C'est ça. On sait qu'on s'aime, mais on sait pas se le dire. Et c'est pareil dans les Gardiens. Et c'est pareil dans l'équipe du Shen. En fait, le Reaper, le thème principal, c'est la famille.
Mmh.
Et peut-être qu'on le voit pas au début, quoique avec Junk, avec son papa et sa maman à Junk.
Et on reviendra dessus. Après.
Voilà. Donc, vraiment, le thème principal, c'est la famille. Après, il y a la bagarre.
Bien sûr.
La baston. Et après les armures, mais ouais c'est vraiment la famille, cette famille ouais dysfonctionnelle qui sait pas s'avouer les choses et qui petit à petit va se découvrir quoi.
Ok.
Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de raconter dans Reaper.
Trop bien. Sans Mimo et le manga d'homme, Junk n'aurait pas de cicatrice.
Putain, il écoute le podcast Mimo ?
Je sais pas.
J'espère. Hein. C'est vrai vraiment les chara-design de Mimo sont incroyables. Donc lisez d'homme, il y a 3 tomes. Je pense qu'au moment où ça sortira, il y aura 3 tomes. Le troisième tome est fini. Et ouais, son personnage principal, Rico, il est incroyable. Les cicatrices m'ont inspiré. En fait, dans le dossier, Junk. J'ai fait la même erreur que Bishop. Bishop, en interview, il a dit Reaper au lieu de Junk. Et toute l'interview, il a dit Reaper. et Junk, ouais, tout le dossier, il a pas de cicatrice. Et j'ai découvert d'homme et je me suis dit, putain, les cicatrices, ça pourrait être cool.
C'est stylé.
Et ouais.
Ok, stylé. Les 180 degrés dans le manga, c'est pas fou.
Attends, c'est moi qui dis ça ?
Non, moi, c'est une phrase que j'ai, je te demande de réagir dessus.
Toriyama, il respecte pas les 180 degrés.
Ok.
Ça, c'est un truc. Et en plus, quand le tome 1 est sorti.
Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas ce que c'est les
180
degrés ?
Je saurais pas expliquer parce que moi, j'ai pas fait d'études de cinéma et tout, mais en fait, c'est là où tu vas poser ta caméra.
Mm.
Il faut pas que la case d'après tu la mènes n'importe où pour que le lecteur soit perdu.
Si ton personnage il regarde à gauche une fois, faut pas qu'il regarde à droite sur la case d'après.
C'est ça. Si t'as deux personnages, un personnage A, Kishimoto, il explique dans un tome de Naruto. Okay. T'as un personnage A, un personnage B. Le personnage A parle là. Si de la case d'après, le personnage A il se retrouve là, bon bah.
C'est bizarre.
Ouais, la règle des 180 degrés elle est pas respectée. Et du coup, le lecteur, en fait, inconsciemment, il est perdu. Il sait plus où regarder. Et quand le tome 1 de Reaper est sorti, ça, on me l'a reproché.
Libéré?
Peut-être, okay. Mais je sais que sur le tome 1 Reaper aussi, on me l'a dit, que j'avais pas respecté la règle des 180, et je leur ai dit, mais ouvrez le tome 1 Dragon Ball, vous verrez si Toriyama il l'a respecté.
Ok. Pourquoi Junk, il est encore en vie à la fin du tome 1?
Quoi?
Pourquoi Junk?
Il est encore en vie à la fin
du
tome 1?
Ouais, mais pourquoi? Il devait pas mourir?
Si, mais comment tu sais? Mais comment tu sais? C'est vrai que le premier script, à la fin du tome 1, Junk, il meurt. Il meurt pas vraiment.
Oui, bien sûr.
Mais à la fin, la dernière case du tome 1, c'est Bortos. Il a explosé Junk. Et t'avais l'équipe du Shen qui voyait Junk en sang sur le sol. Mais il a vraiment explosé. Et je me suis dit, faire mourir un personnage, surtout le personnage central, parce qu'il n'est pas le principal, dès la fin du tome 1, ça sert à rien. vraiment faire mourir un personnage dans le tome 1, si c'est pas dans le chapitre 1 pour faire un, pour créer un tournant pour ton personnage principal et pour le marquer à vie, par exemple quand on a un Gashiyakuta, c'est le premier chapitre, je peux spoiler, Gashiyakuta, le personnage, son mentor meurt premier chapitre, et c'est tout ce qui va enclencher son sa quête,
sa transformation,
c'est ça. Alors que faire mourir ton personnage plus loin dans le chapitre, dans le tome 1, ça sert à rien. Même dans les trois premiers tomes, faire mourir un personnage principal, ça sert à rien.
Okay.
Ça sert à rien dans...
T'es pas assez attaché sentimentalement.
C'est ça.
Okay.
Dans Naruto, le premier personnage qui meurt, c'est Zabuza et Haku.
Tome 4.
C'est ça, tome 4. Comme dans Radiant, là on spoil de fou, il y aura des gros bips, tu vois, mais tu vois, c'est des personnages antagonistes qui partagent la même vision que le personnage, mais un petit peu biaisée, un petit peu différente. Et c'est ce personnage-là, en mourant, qui va marquer à vie le personnage et un tournant dans sa psyché. Ouais, quoi. Ouais. Naruto, quand il voit Zabuza et Haku mourir, il change toute sa mentalité sur l'univers ninja, comme Seth, sur tout l'univers des sorciers et tout ça,
mais
dans
Radiant.
Peut-être qu'il y aura ça dans Reaper.
Ok. Un bon manga, un bon tome de manga a 10 pages marquantes.
Ça, c'est Renaud qui a dit ça. Ça, c'est... J'écoute tout ce qu'il dit. N'importe. C'est...
Tu valides?
Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Mais c'est vrai qu'il faut des money shots. Mmh. Il faut des belles doubles pages ou des belles pages pleines pour marquer. Et c'est souvent, en fait, quand un tome sort de Reaper sur le Discord, je demande aux gens, vas-y, postez vos pages préférées. Et c'est souvent les mêmes qui reviennent, des pleines pages, des doubles pages.
Donc tu dis qu'il y a les 10 pages.
Qui te marquent la rétine, vraiment.
Ok, trop bien. Quand l'auteur de Reaper fait son manga, son tome 1, il pleure.
C'est vrai. C'est vrai, la scène de Junk avec ses parents.
Ouais.
Ses parents, pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1. Moi, c'est la scène que je voulais raconter. C'est la scène mais qui m'a marqué en la dessinant. Je crois, Oda, quand il a dessiné le Vogue Mary...
C'était un peu le même sentiment.
Je pense qu'il n'était pas bien. Et vraiment, j'avais vraiment envie de dessiner cette scène. Et quand je dessine cette scène, le câlin de Lens et tout, j'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais t'as les larmes aux yeux parce que tu te mets à la place du perso. Tu dis, mais putain, mais c'est ouf. Enfin, je saurais pas expliquer. Okay. Je saurais pas, parce que j'ai du mal à me mettre à la place d'autres personnes.
Ok.
Donc je me suis pas mis à la place des personnages.
Mais ça t'a fait quelque chose.
C'est ça. C'est écrire cette, raconter cette scène, raconter cette histoire, ça m'a.
Putain, c'est ouf. C'est ouf. Est-ce que faire du manga, c'est juste une bonne raison pour se faire battre, pour faire battre des mecs musclés en armure?
Oui.
Ouais.
Ouais, clairement, le but de Reaper, c'est la bagarre. Moi, je kiffe le shonen. Vraiment, le shonen, c'est vraiment mon délire. Shonen qui se prend pas la tête, la baston. Et puis, ils ont tous des jeux de combat. Moi, j'ai envie qu'il y ait un jeu de combat, là.
Ouais. c'est ce que tu kiffes.
C'est vraiment le versus fighting, Guilty Gear, Street Fighter, Bloody Roar. Si un jour il y a un jeu de combat Reaper, mais.
Est-ce que les personnages de Reaper seront dans le jeu Ankama?
Oui. Il y aura Junk dans Crossfighter.
Okay, cool.
Que Junk pour l'instant. Et Joe de Space Punch.
Qui est trop bien.
Mais ouais.
Bah, j'ai fini ma liste de statements, d'affirmations. Okay. Du coup, on va arriver un peu sur les questions de fin du podcast qui sont communes à toutes les personnes qui passent sur cette chaise. Enfin, pas celle-ci parce que c'est la première fois que je viens dans cet hôtel, hein, vraiment. Donc la première, ça va être... Non, tiens, je vais t'en poser une autre avant. C'est quoi tes ambitions pour la suite?
Me lever le matin et dessiner Reaper.
Ouais, Reaper à fond. Ouais.
Faire en sorte que Reaper fonctionne, trouve son public et que je puisse raconter mon histoire comme il se doit, comme je l'imagine.
Ok.
Comme je l'imagine, Reaper, c'est 10-12 tomes, ni trop long ni trop court, ça rentre dans la bibliothèque, tu vois. Et voilà, ma première ambition pour l'instant, c'est ça. Et voilà, vivre une vie tranquille, quoi.
On va arriver du coup sur les deux dernières questions. Donc c'est une recommandation d'un contenu à consommer, ça peut être un livre, une vidéo, un film ou même un musée ou peu importe. Enfin, un truc.
Donc ça, c'est une recommandation. Peu importe, général.
Ouais, tu peux même en faire plusieurs si tu le souhaites.
Ou c'est un truc qui m'a matrixé, comme tu me disais.
Ah oui, c'est ça, c'est un truc qui t'a matrixé.
Ah ouais, c'est un truc vraiment...
Ouais, vénère.
Putain, un truc qui m'a matrixé, vraiment, qui m'a...
Tu croises quelqu'un et qui dit « Ouais, t'as un petit truc... » Genre, vraiment, le truc que tu recommandes tout le temps, tu vois, genre ce...
Je saurais pas dire, hein, le... le truc que je recommande Dreamland, je recommande One Piece, tu vois, en manga. Parce qu'après, je suis pas Breaking Bad.
De Vince Gilligan.
Ouais, vrai. La série Breaking Bad. Si, non, si, c'est ça, ouais. La série Breaking Bad, du début à la fin, c'est... Je crois que c'est la meilleure série de tous les temps. Okay. Tellement maîtrisée, bien écrite du début à la fin. Il n'y a pas, hein, pour moi, il n'y a pas une erreur. Vraiment, il n'y a pas une erreur. J'ai toujours pas regardé Better Call Saul.
Okay.
Mais apparemment, c'est du même acabit. Et vraiment, Breaking Bad et Game of Thrones, juste en dessous, vraiment juste en dessous, qui sont des séries qui m'ont marqué vraiment à vie, quoi. C'est en fait, c'est des, moi quand je regarde un truc, je le regarde pas une deuxième fois.
Mmh.
Et Breaking Bad, je l'ai regardé qu'une fois, ça m'a marqué, je le regarderai plus jamais. J'aimerais bien être hypnotisé, tu vois, pour oublier et re-remater. Game of Thrones, ça a beau être une de mes séries, je re-regarderai pas, parce que bah, après, parce qu'il y a des scènes qui m'ont beaucoup trop traumatisé. Aubryn Martell, la montagne. Voilà. Je sais pas si t'as regardé.
Moi, j'ai pas accroché à Game of Thrones. J'ai regardé deux saisons, après j'ai arrêté.
Ok, ouais, putain, cette scène. Je suis pas bien.
Ah ouais,
d'en parler. Ah, c'est horrible. C'était un... Aubryn Martell, c'était mon perso préféré. Bon, bref. Il finit mal. Et non, Breaking Bad aussi. Okay. En fait, l'écriture des persos est ouf. Le déroulement est ouf. C'est des séries qui te marquent à vie, quoi.
Tu sais que c'est hyper drôle parce que il y a un an à peu près, quasiment jour pour jour, je pense, le troisième épisode du podcast, il sortait et c'était avec le Mont Corvo et il recommandait Breaking Bad.
C'est vrai?
Ouais.
Bah, le Mont Corvo. Ils ont les tomes de Reaper, hein.
Ils ont les tomes de Reaper.
Ils ont les deux premiers tomes de Reaper, le Mont Corvo, si vous regardez.
Incroyable.
Là. Voilà.
En plus, vous venez du même coin.
C'est vrai.
Ils viennent d'Avignon, je crois.
Du sud, en tout cas.
Ouais.
Du sud. Et on est fan de One Piece.
Mm-hmm.
Quand ils veulent, hein. Ouais, je viens faire des théories sur leur chaîne. Hein.
Incroyable. Et après, il y a d'autres trucs, mais je te raconterai après que vous avez en commun qui sont assez drôles.
Ok.
Et finalement, ça va être la dernière question et qui va un peu donner le mot de la fin de ce podcast, de ce 30e épisode déjà. 30. C'est un conseil que t'aimerais donner à l'auditeur. Ça peut être un conseil de vie, un conseil de mangaka, un conseil de ce que tu veux.
Ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué parce que moi je me laisse porter par la vie. Vraiment, je me pose pas de questions, je conscientise rien. Là, j'ai beaucoup parlé, mais en vrai, dans l'intimité, je parle pas.
Mmh.
Je parle vraiment pas. Je suis sur mes pages et tout. De faire ce qu'on aime à fond. Il y a Alexandre Astier, il y a pas longtemps, qui a fait Hot Ones.
Incroyable épisode.
Qui a dit, moi, Alexandre Astier, bon, voilà. Et j'aime beaucoup cet homme qui raconte énormément de choses vraies et tout. Un peu moins ces derniers temps, parce que, bah, voilà, parce que ça arrive. Mais il a dit un truc, il a dit, si vous faites un boulot qui vous plaît pas, 3-4 jours, ok, mais 3-4 ans, voire plus. Non, c'est pas, quittez-le. Alors, c'est très dur, hein, comme il disait, c'est très dur. Mais faites ce qui vous plaît. Et puis kiffer, je sais pas quoi dire, honnêtement, c'est trop dur comme question.
Ah ouais, tu trouves?
En fait, je me trouve pas légitime de donner des conseils, de donner des cours, encore maintenant. Donc, être légitime pour donner des conseils de vie, je saurais pas quoi dire à part kiffer, faites de mal à personne, soyez gentil.
Et remporter le prix de Tezuka comme ça, vous allez au Japon pendant 2 jours.
Voilà, c'est 2 jours. Juste 2 jours.
Incroyable. Merci Géraud.
Ben, merci à toi, c'était cool.
Et puis top, à la prochaine.
Yes, carrément.
Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, et pour tout ça, je vous en remercie. J'en profite pour vous demander de laisser un avis sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcasts, cela nous aide énormément. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pince sur la planche.